Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans la saison 3 du Départ, un podcast sur le changement de vie qui paraît tous les derniers samedis du mois. Je suis Manon, votre hôte, et je vous emmène avec moi découvrir des parcours inspirants d'hommes et de femmes qui ont changé de vie. Que le changement soit professionnel ou personnel, les personnes que j'interviewe ont toutes des histoires hors du commun à raconter. Je vous laisse découvrir mon invité du jour et n'oubliez pas, ce n'est pas le point de départ qui compte, mais bien le chemin que l'on décide de tracer devant soi. Aujourd'hui, c'est Bénédicte qui est venue nous raconter son histoire, ou plutôt ses histoires d'expatriation. Pas forcément baignée dans le voyage depuis sa plus tendre enfance, le projet d'expatriation est tout de même un sujet qui arrive rapidement lorsqu'elle rencontre son mari. En 2010, ils partent pour une première aventure en Chine, à Shenyang, une ville pas très connue du nord de la Chine. Bénédicte raconte comment elle s'adapte à cette nouvelle vie, puis leur déménagement à Shanghai, où ils vivent une vie de rêve. Le retour en France, un peu difficile, mais qui se passe pourtant très bien. Et puis, elle raconte aussi sa dernière expatriation, en Inde cette fois, qui ne s'est pas vraiment passée comme prévu à cause du Covid. Que d'aventures riches en rencontres que je vous laisse écouter. Et moi, je vous retrouve à la fin pour des informations importantes. Bonjour Bénédicte.
Bonjour Manon.
Comment tu vas ?
Ça va super bien.
Merci d'avoir accepté mon invitation sur le podcast. On va parler expatriation aujourd'hui. C'est un sujet que j'ai peu abordé, mais que je vais beaucoup aborder cette année-là. Donc c'est plutôt cool. Est-ce que tu peux d'abord te présenter comme tu le souhaites ? J'ai aucun... Pas forcément prisme professionnel, enfin vraiment comme tu le souhaites, comme toi tu te sens de te présenter.
Alors donc je m'appelle Bénédicte, j'ai presque 42 ans, j'ai une famille avec un mari et 5 enfants. Je travaille dans une grande entreprise où je fais du développement RH et à mes heures perdues, je fais beaucoup de couture.
Ok.
Et j'aime bien cuisiner, notamment avec mes filles.
Chouette. Est-ce que tu peux me raconter quel genre de petite fille tu étais quand tu étais petite, du coup?
Alors, je crois que j'étais une petite fille très joyeuse et qui avait déjà beaucoup d'humour. Voilà, je faisais souvent des blagues ou des jeux de mots. Et aujourd'hui, je crois que j'aime encore beaucoup rire.
Ben c'est bien, on va passer un bon moment.
Ah ça, je te le promets.
Tu faisais des spectacles à tes parents, à ta famille
Non, je crois pas que... Non, c'était non, pas des spectacles, ouais. C'était plus dans les conversations.
Okay. Où,
voilà, terminé par une pirouette, de langage. Et, non, je faisais pas du show, mais voilà, j'aimais bien jouer avec les mots et faire rire.
Trop bien. Dans quel environnement est-ce que tu as grandi ? Est-ce que vous étiez à beaucoup voyager ? Est-ce que vous restiez beaucoup chez vous ? Quel a été un peu ton environnement de...
Alors, je n'ai pas énormément voyagé en étant enfant. Je me souviens d'un voyage à Londres, peut-être quand j'étais en CM1 ou CM2 avec mon papa et ma grande sœur. En fin de troisième, on a fait un très beau voyage avec mes parents et les cousins. On est partis au Canada.
Okay,
donc ça, c'était vraiment un très, très, très beau voyage. Et ensuite, quand moi, j'ai été plus grande, indépendante, j'ai un peu voyagé. J'ai un très bon souvenir d'un voyage au Liban quand j'avais 18 ans. Une semaine à New York entre copines,
okay.
Incroyable. voilà, donc quand j'ai pu voyager, je l'ai fait avec plaisir, mais ça n'a pas bercé mon enfance. J'ai pas pris l'avion comme d'autres prennent le métro.
C'est vrai. Mais c'est chouette, du coup, c'était quand même une envie que t'avais au fond de toi. Tu te disais, quand je serai indépendante, j'irai voyager, ou c'est parce que les opportunités se sont présentées
Je pense que la porte était ouverte, et du coup, je m'étais toujours dit pourquoi pas. Je ne sais pas si je l'aurais fait seule, aller vivre à l'étranger. Après ça, quand je me suis mariée, et avec mon mari, on avait toujours ce projet en se disant, voilà, ce serait sympa si un jour on nous propose une expatriation de partir.
Okay.
Mais je ne sais pas si je l'aurais fait toute seule.
Ouais, ok. Je comprends. C'est impressionnant en même temps.
Oui, et surtout, ça dépend du pays où tu vas. Si tu vas en Suisse, c'est peut-être moins impressionnant. mais effectivement, nous, on a voyagé dans deux pays et on a vécu 5 ans en Chine et deux petites années en Inde, donc c'est vrai que c'est pas les pays les plus évidents pour s'expatrier.
Est-ce que tu peux me raconter un peu ton parcours, ce que les expatriations se font grâce à ton environnement professionnel ou pas ?
Plutôt celui de mon mari, parce okay. que j'ai beaucoup suivi mon mari. En fait, on s'est mariés assez jeune, et donc moi, je l'ai suivi tout au long de sa carrière, et j'ai travaillé au gré des naissances et des pays et des endroits où nous vivions. Donc voilà, plus ou moins, on est parti en la première fois qu'on est parti, c'était en 2010.
Okay.
En 2010, donc j'ai lâché un travail pour partir en Chine.
Okay.
Mais c'était un projet de vie. À ce moment-là, on avait 4 enfants petits. Voilà, ça tombait bien.
Okay.
Ça tombait bien de partir à ce moment-là.
Et c'est parce qu'on le propose à ton mari dans son environnement professionnel, on lui propose ce pays-là, ou est-ce que c'est vous qui aviez déjà une appétence pour la Chine?
On savait qu'il y avait des gros projets en Chine dans son entreprise,
okay.
donc c'est évident que ça pouvait nous tomber dessus, et on s'était mis aucune barrière en termes de pays, et
okay.
moi j'avoue que j'étais assez contente de partir en Chine.
Eh ouais.
Je trouvais que c'était une aventure, c'était une vraie aventure. Hein.
Oui.
Mais j'étais contente de partir en Chine. Ouais.
Qu'est-ce que tu connaissais du pays? Quelles sont les idées que tu te faisais sur ce pays avant de partir?
Tout à l'heure, je t'ai dit que j'aimais bien sauter dans le grand bain. Je crois que j'avais pas trop d'idées. J'avais pas trop d'idées. Je savais juste que c'était un grand pays, voilà, que la langue était pas évidente. En plus, on est dans une ville qui n'était pas connue. On a vécu les 2 premières années dans une ville du nord de la Chine qui s'appelle Shenyang et qui n'était pas très connue. C'est pas Shanghai ou Pékin.
Ouais.
Donc, il n'y avait pas grand-chose. En 2010, tu ne pouvais pas aller sur Instagram chercher un expatrié à Shenyang. Ça n'existait pas. Donc, voilà, tu savais un peu par les autres expatriés ce qu'il y avait, les autres expatriés de la même boîte. Mais je ne savais pas grand-chose, en fait. J'avais juste appelé quelques personnes, parce que j'avais des enfants en bas âge. Est-ce qu'on trouve des couches? Oui, ok, bon, j'arrive alors.
Ok, le principal, les enfants, qu'ils aient leurs repères. Et...
Voilà, exactement, ouais. C'était qu'ils aient leurs repères. On a pris un déménagement assez light. J'ai juste emporté mon matériel de cuisine et les jeux des enfants, et puis quelques livres. On était limité en termes de livres, on pouvait emporter que 100 livres.
Ok.
Et pour moi, c'était un vrai sujet, parce que j'aime bien avoir plein de bouquins, j'aime bien ne pas avoir à réfléchir au bouquin suivant.
Mm.
Et donc là, j'ai surtout pris des livres pour les enfants.
Ouais.
Et donc, voilà. La première chose que j'ai faite en arrivant en Chine, c'est que j'ai fait une énorme commande sur un site de livres français qui m'a... pour me livrer des livres, parce que j'avais besoin de livres sur ma table de nuit.
Comment ça se passe, justement, le déménagement? Est-ce que c'est organisé par l'entreprise de ton mari ou vous le faites tout seul? Comment est-ce que ça se passe?
C'était une grosse entreprise qui avait l'habitude d'envoyer des expatriés à droite à gauche, donc c'était très, très, très organisé. On avait okay. Un garde-meuble, un déménagement maritime donc, qui arrivait peut-être au bout de 2 mois. Mais voilà, on était très coucounés, ça a été très facile, on nous a aidé à trouver une maison.
Okay.
Pour les écoles, c'était facile. Vraiment, voilà, il n'y avait pas de... La logistique a été hyper simple.
Oui, même du coup pour caser, même du coup pour les enfants, après, s'ils avaient besoin d'un moyen de garde et tout, tout était organisé par l'entreprise.
Oui, alors en Chine, c'est assez facile d'avoir quelqu'un chez soi,
okay.
donc j'ai eu quelqu'un à la maison pour s'occuper des plus jeunes, et puis les autres qui allaient à l'école, il y avait une école qui avait été créée par l'entreprise.
Ok, donc c'est vraiment...
Donc voilà, ils étaient biberonnés à l'entreprise de mon mari, et puis moi, toutes mes amies, elles travaillaient dans la même... leur mari travaillait dans les mêmes entreprises, enfin voilà.
Ouais. Ok.
Mais franchement, c'était une très chouette expérience. C'était l'aventure tous les jours dans cette ville, parce que il y avait très peu d'étrangers.
Okay.
Donc quand on se baladait, on était quand même, les gens nous regardaient quand même beaucoup. En plus, nous, on avait 4 enfants petits, donc en Chine, dans le pays de l'enfant unique, une famille avec 4 enfants, en plus, ouais. un peu, voilà, les cheveux clairs. Donc on était pris en photo tout le temps, les gens touchaient les enfants. pour eux, c'était pas évident, mais c'était ouais. quand même c'était quand même une chouette expérience, je trouve. Et puis même au quotidien, quand tu avais des voitures de luxe sur l'autoroute, et puis à côté, tu avais une charrette tirée par un âne. Enfin, c'était vraiment... Mais tous les jours, il nous arrivait un truc exceptionnel. Enfin,
okay.
Ou quelque chose qui sortait de l'ordinaire. Donc, c'est ça,
ah
qui
ouais.
était, c'est ça qui était sympa. C'est ça que j'aimais bien.
Comment tu fais pour te faire des connaissances dans cet environnement où vous ne parlez pas la langue? Je ne sais pas, peut-être que vous parliez un peu la langue, d'ailleurs.
On avait pris quelques cours de chinois, mais
okay.
c'était certainement pas suffisant pour se faire des amis. À vrai dire, c'était pas évident de se faire des amis chinois. Donc on s'est fait des amis parmi les autres expatriés. Donc il y avait une grosse communauté française, une grosse communauté allemande. Et donc, en fait, ça se fait très vite.
Okay.
Parce qu'on se connaît et on se reconnaît très facilement. Donc,
ouais.
Donc dès que tu arrives, tout le monde sait que tu es là et t'invite à prendre le goûter, à t'emmener. Les gens t'emmènent chez Carrefour pour te faire visiter, savoir ce que tu peux acheter dans ce magasin. Parce que c'est pas les mêmes rayons que chez nous. Alors, ouais. Le sucre, tu le trouves à tel rayon. Le chocolat, quand il y en a, tu prends 10 plaques parce que t'es pas sûr qu'il y en aura la semaine d'après. Voilà, les céréales, tu peux y aller les yeux fermés. Enfin voilà, donc tout le monde te donne on se passe des conseils d'expatriés en expatriés comme ça.
Ah, c'est trop chouette. Mais sur le terrain, enfin, si je puis dire sur le terrain, mais oui, sur le terrain en fait, t'as pas épluché les blogs avant.
Non, à ce moment-là, il n'y avait pas encore beaucoup de blogs en fait.
Ouais.
En 2010, c'était, enfin, il y en avait, mais. Notamment à Shenyang, d'expatriés de Shenyang, il n'y en avait pas. Ouais. À Shanghai, il y en avait plus. Mais, et d'ailleurs, moi, à ce moment-là, j'ai créé un blog pour les expatriés.
Okay.
Avec deux autres amis, on a créé un blog qui s'appelait Welcome in Shenyang, où on partageait tous les bons plans en termes de nourriture, en termes de visite, en termes de voyage.
Très bien.
Voilà, les restaurants. Voilà, on avait fait ça, c'était génial.
Ah ouais, c'est une chouette initiative.
C'était une chouette expérience de faire ça avec deux amis. Voilà, c'était pour s'occuper et ça servait à tout le monde. Donc tu pouvais trouver l'endroit, le nouvel endroit où acheter du chocolat. Tu pouvais aussi trouver la petite auberge de jeunesse au milieu de la Chine où quelqu'un avait passé un week-end et l'a recommandé chaleureusement. Tu pouvais aussi trouver le nouveau restaurant qui venait d'ouvrir. Voilà, parce que en fait les magasins et les restaurants s'ouvrent et puis ferment assez rapidement, donc il faut toujours être au fait de l'actualité si tu veux avoir une vie si tu veux avoir une vie sociale.
Et ouais, justement, ça fait partie des grosses différences culturelles avec chez nous, le fait que les commerces se renouvellent. Est-ce qu'il y a d'autres éléments vraiment qui t'ont perturbé ou marqué ou vraiment qui faisaient une énorme différence avec chez nous?
Alors c'est vrai que ces côtés-là étaient un peu difficiles. Tu trouves un super magasin, par exemple, pour habiter tes enfants dans un marché, et tu y retournes la semaine d'après et il n'est plus là.
Oui.
Donc bah, il faut sans cesse se réinventer. La grosse différence, c'est quand même la cellule familiale. C'est évident que dans un pays où il n'y a que des familles à enfants uniques, même si c'est en train de changer, ça fait une grosse différence dans le rapport qu'ils ont avec l'enfant. C'est vraiment l'enfant roi. Pour chaque enfant, tu as deux parents et quatre grands-parents.
Ouais.
Donc les enfants sont surprotégés. Je pense qu'un enfant de moins de 2 ans ne touche pas le sol, en fait. Il y a toujours quelqu'un pour le porter. Donc, voilà. Et puis, il y a la grosse différence, mais c'est quand même dans pas mal de pays qui n'ont pas les mêmes niveaux de développement que nous. Tu as une grosse différence entre les gens riches et les gens pauvres.
Mm.
Voilà, il y a des gens très, très pauvres, et puis il y a des gens ultra riches. Voilà, nos voisins, ils habitaient dans des maisons démentielles. Ils avaient 2 ou 3 Porsche dans leur garage. Voilà, ouais. Moi, mes voisins en France n'ont pas 2 ou 3 Porsche dans leur garage. Donc,
on peut peut-être en trouver, mais
voilà, c'est.
Oui.
Je n'ai jamais vu autant de voitures de luxe qu'en Chine.
Ok.
Mais on sait aussi qu'il y a beaucoup de gens en Chine qui n'ont pas de quoi vivre. Donc, c'est ça qui est la grande différence culturelle. Pour moi, je sais pas si c'est culturel, mais en tout cas social, c'est vraiment la grande différence.
Quand on va dans un pays comme ça, est-ce qu'on importe notre culture au sein de notre maison pour garder nos marques, surtout quand on a des enfants, ou est-ce qu'on s'imprègne des coutumes un peu de d'où on est?
Alors, nous, on n'est pas partis avec nos meubles. Donc, la maison avait été meublée par le propriétaire. Donc, il y avait des meubles qui étaient un peu chinois. C'était assez joli. T'as des énormes canapés en cuir. Bon, c'est pas forcément ce que j'aurais mis chez moi, mais ça passait. Le fait est que tu es content, quand tu habites dans un pays comme ça, un peu exotique, d'acheter des choses du pays.
Ouais.
Des statuettes, une gravure. Voilà, chez moi, là, j'ai une grande tunique ancienne qu'on a achetée dans un marché, qu'on a fait encadrer. Et voilà, c'est notre souvenir de Chine. Voilà,
ouais.
On aime bien voir ça. Et puis on a aussi rapporté après ça des souvenirs d'Inde. C'est sympa, il y a des meubles qu'on a fait faire là-bas. C'est vrai qu'on est... On est content de les avoir.
Ouais.
Ça nous, voilà, on se dit qu'on n'a pas la même maison que tout le monde.
C'est clair. Et est-ce qu'au niveau du rythme de vie, il y a une différence? Parce que nous, on est très, on se lève le matin, on prend un petit déjeuner, après on a le matin, après on a le midi, on mange, après on a le goûter, après on a. Est-ce que au niveau du rythme de vie, il y a une différence?
Alors non, parce qu'en fait, les écoles françaises reproduisent ce rythme.
Ok.
Donc la différence, c'est que les enfants rentrent peut-être un peu plus tôt, donc ça fait. Un après-midi un peu plus long à la maison, mais sinon il n'y avait pas trop de différence. quand on habitait Shenyang, donc Shenyang c'est très au nord de la Chine, c'est une ville qui a un climat très continental, c'est-à-dire qu'il fait assez chaud l'été, mais très très froid l'hiver. On avait des moments à moins 20, moins 25.
Ah, oui.
Donc la grosse différence dans le rythme, c'était la préparation le matin.
Ouais.
Quand les enfants partaient à l'école ou pour prendre le bus, ils étaient surhabillés. Donc on avait un collant, un pantalon fourré, un surpantalon. En haut, il y avait un t-shirt, un gros pull en laine, une polaire, un manteau fourré, le bonnet, les gants. Voilà, quand tu as 4 enfants de moins de 5 ou 6 ans, tu passes un tout petit peu de temps.
Ouais.
Donc c'était la grosse différence dans le rythme. Mais sinon, on avait globalement le même rythme qu'ici.
C'était un choix... Alors j'ai compris que c'était l'entreprise de ton mari qui avait construit l'école. C'était un choix de les mettre dans une école française et pas dans une école locale.
Alors, l'école de l'entreprise commençait à partir de la grande section.
Okay.
Donc avant, les enfants étaient à l'école chinoise.
Okay.
Nous, on a fait un essai. On n'a pas été du tout séduits par l'école chinoise qui était proposée aux enfants. Donc, on a fait le choix de mettre nos filles dans un jardin d'enfants américain.
Okay.
Parce que l'école chinoise, il n'y a pas de place du tout à la créativité. Tous les enfants font la même chose. L'enfant n'a pas sa place... On n'a pas sa place en tant qu'individu, c'est vraiment le groupe.
Ouais.
Et dans l'école qu'on avait trouvée, c'était l'école américaine qu'on avait trouvée, c'était une école avec une sensibilité Montessori.
Okay.
Là, donc l'enfant a toute sa place. Et nous, on a fait ce choix-là.
Oui, pour vos convictions personnelles aussi d'éducation.
Exactement. Ouais.
Et toi, en tant que toi, comment est-ce que tu t'adaptes ? Tu as quitté un travail en France, mais pas pour aller dans un autre travail. Toi, est-ce que tu retrouves un travail ? Comment tu t'adaptes à cette nouvelle vie ?
Alors, en Chine, j'ai pas retravaillé.
Ok.
J'ai rempli ma vie avec pas mal d'activités. Donc, il y avait ce blog dont je t'ai parlé, qui nous prenait quand même pas mal de temps.
Ouais.
J'ai créé un groupe de couture. Donc, c'était moi un peu la chef. En fait, comme là-bas, le tissu coûte pas très cher, tout le monde se met à coudre.
Ah, ouais.
ça nous prenait pas mal de temps. Et à ce moment-là, je cousais quand même beaucoup, même à... Personnellement, pour mes filles, j'avais du temps et j'aimais bien ça. Je cuisinais pas mal parce qu'en fait, t'as pas de picard, hein, donc tu cuisines beaucoup. Je faisais des visites avec des amis très régulièrement. Ensuite, quand j'ai habité Shanghai, j'ai intégré un groupe qui s'appelait Culture de Chine. Non, Histoire de Chine, pardon. Histoire de Chine. Et chacune, je dis chacune parce qu'en fait, c'était que des femmes, que des épouses expats. Chacune présente un exposé tour à tour sur un sujet chinois, de la culture chinoise. Donc, la première année, j'ai fait un exposé sur les pieds bandés. Donc, après ça, tu mets l'investissement que tu veux dans cet exposé.
Ouais.
Moi, le fait est que je m'investissais, donc ça me prenait quand même pas mal de temps de préparer. Donc, j'ai parlé, d'où vient cette tradition des pieds bandés, ce que ça signifie, les conséquences, etc. Et la deuxième année, j'ai parlé de la dernière femme de Mao, qui était une dame absolument affreuse, et qui fait partie de la bande des quatre. Donc j'ai fait un exposé sur... Je dois dire que je suis assez contente de mes deux exposés, parce que la première année, dans mon groupe, il y avait une jeune femme qui était italienne, et qui m'a demandé si elle pouvait traduire mon exposé pour le présenter... À ses amies italiennes.
Ah.
Voilà, donc mon exposé a été traduit et une fois une de mes amies m'a dit « C'est bizarre, j'ai trouvé ton exposé sur internet, mais il est en italien. » J'ai dit « Oui, je le savais. » Je le savais. Et puis la deuxième année, donc j'ai fait mon exposé sur la dernière femme de Mao. Et quelques années après mon retour de Chine, deux ans après mon retour de Chine, j'ai reçu un message du petit journal de Shanghai qui me demandait s'il pouvait publier mon exposé. Donc à cette occasion, je l'ai retravaillé pour le mettre en format journal.
Ok.
Mais, donc voilà, je dois dire que je suis assez contente parce que, là, qu'on dit, les femmes d'expat, elles font pas grand-chose. On peut remplir sa vie de choses intéressantes et de choses que tu peux ensuite valoriser. C'est vrai que j'ai toujours mis ça sur mon CV après, quand j'ai recherché du travail. Et oui, j'ai fait des choses. J'ai pas travaillé, mais j'ai pris mon temps à des choses.
Ouais.
Donc, et en Inde, en revanche, quand on n'a pas encore parlé de mon expatriation en Inde, mais on va y venir. J'ai travaillé. Dès que je suis arrivée, on m'a proposé un travail. Et donc, j'étais prof d'éco au lycée français de Mumbai.
Ok. Oui, on va y venir parce que tu m'as aussi parlé de Shanghai. Donc, vous déménagez...
Au bout de 2 ans, on déménage à Shanghai.
Ok. Parce que
Parce que nouveau poste. Voilà, nouveau poste de mon mari. Et c'était plus simple qu'il soit à Shanghai parce qu'il voyageait beaucoup.
Ok.
Les trois ans que nous avons passé à Shanghai, lui voyageait beaucoup. J'étais toute seule à la maison pendant trois semaines par mois, j'étais toute seule. Lui, il était, je sais pas où, en Chine, en Thaïlande, en Inde. Voilà, il voyageait beaucoup. Alors, Shanghai, c'est la vie de rêve. Hein. Le climat est hyper sympa. Il y a une communauté expatriée. Il y a 20 000 Français.
Ok.
Donc, deux lycées français de bonne taille. Tu trouves plein de... On s'est fait plein d'amis. T'as vraiment une vie culturelle dingue. Donc, voilà, c'était vraiment... la vie à Shanghai était vraiment un peu la vie de rêve.
Ok. Et tes enfants, ils s'en souviennent ou ils sont trop petits ?
Mes grands s'en souviennent. Alors, ma dernière est née à Shanghai, donc elle ne se souvient pas, mais elle le voit écrit sur son passeport, donc elle sait qu'elle y a vécu. Je dirais que mes garçons qui ont vécu en Chine entre 5 et 10 ans, eux s'en souviennent. Ils se souviennent bien de Shanghai. C'était la vie de rêve pour eux. Hein. On habitait dans un lotissement où il n'y avait pas beaucoup de voitures, donc ils passaient leur temps les uns chez les autres, ils se baladaient à vélo. Ils avaient une vie hyper facile. Ils rentraient à 3h de l'après-midi. Ils avaient le temps de jouer avant le dîner. Enfin, vraiment, c'était une vie vraiment très agréable pour eux. Quand on est rentré, l'école se termine à 4h30 en France.
Ouais.
Tu rentres chez toi, le temps du goûter, des devoirs, quasiment, c'est...
Oui, c'est le bain,
voilà. Vraiment, on n'a pas le temps de jouer en France. Mais oui, effectivement, c'était pas le mérite. Donc, pour eux, c'était vraiment une chouette tranche de vie.
Ok, chouette.
Et puis on a fait plein de voyages à partir de la Chine, on a fait beaucoup de voyages et ça je pense qu'ils s'en souviennent. Je les vois souvent regarder des albums photos. Ah oui, je me souviens quand tu étais sur ce bateau-là. Ah oui, je me souviens. les photos entretiennent aussi le souvenir, mais ouais, non, je pense qu'ils s'en souviennent bien. Et alors, paradoxalement, ils n'ont pas tous gardé le goût du voyage. Parmi les cinq, il y en a qui sont très, très sédentaires, et puis d'autres qui sont très curieux et qui auront envie d'aller vivre dans d'autres pays. Donc c'est marrant, comme quoi tu plantes des graines, mais qui poussent pas de la même façon.
Carrément. Et est-ce qu'on a le mal du pays au bout d'un moment ? On a envie de revenir en France, ou c'est tellement la vie de rêve qu'on n'y pense pas ?
Non, moi je pense que je l'ai jamais eu. On rentrait l'été, hein, de toute façon.
Ouais.
Voilà, on rentrait... moi je rentrais 4, 5 ou 6 semaines. On a eu des visites tout le temps. À ce moment-là, les gens voyageaient. C'était pas le Covid. Hein. Donc, on a eu du monde tous les ans. Je crois qu'on a eu des visites, que ce soit nos parents. On a eu nos frères et sœurs, certains de nos frères et sœurs qui sont passés. Enfin, des amis aussi. Donc, en fait, non, moi, je me souviens pas avoir eu mal du pays. J'ai vraiment beaucoup pleuré quand on est rentré définitivement. Pendant tout le vol, j'ai pleuré. Je voulais tellement pas quitter Shanghai. J'ai pleuré tout. Vraiment, c'était très, très dur.
Et donc, c'est quoi la raison qui fait que vous rentrez, alors ?
Fin de la mission, et puis on lui propose un autre travail en France. Donc on rentre.
Ok. Et vous, à ce moment-là, vous ne vous dites pas peut-être un autre pays tout de suite, ou...
L'occasion s'est pas présentée. Si on nous avait proposé un autre pays, je pense qu'on serait parti dans un autre pays. Et bon, l'occasion s'est pas présentée. On est rentré en France, on est rentré en province, dans un endroit qu'on ne connaissait pas. voilà. Bon, j'avoue que j'y suis allée un peu avec des pieds de plomb, parce que quand mon mari m'a dit qu'on rentrait en France, j'ai dit « Ok, bon, on va tout organiser pour aller dans la ville où est le siège de l'entreprise. » C'était Clermont-Ferrand. J'avais tout organisé, j'avais les écoles, j'avais tout. Et puis, au mois de mai, donc voilà, début mai, il me dit « En fait, ça y est, on m'a proposé un poste. » Il me parle du poste. Je sens que c'est un poste, vraiment, il était hyper content de ce poste et tout. Et j'ai senti qu'il y avait un loup. Je lui dis « Mais c'est où ce super poste ?» Il me dit « Oui, c'est là que c'est pas vraiment ce qu'on envisageait. On part à Roanne. »
Alors, je ne sais pas où c'est.
Ah, voilà. moi, je savais où c'était. C'est pas très loin de Lyon. On va dire que c'est entre Lyon et Clermont-Ferrand. C'est une petite ville de 35 000 habitants qui, sur le papier, ne fait pas rêver. Je dois dire que ça a été deux très, très, très belles années. On a vécu 2 ans à Roanne. Et vraiment, on ne pouvait pas rêver meilleur atterrissage. Ce n'était pas du tout la vie de Shanghai, hein, mais on a rencontré plein de gens géniaux. On a été très, très bien accueillis. L'école des enfants était top. Moi, je me suis remise à travailler au bout d'un an. J'ai repris un boulot en RH. On avait une vie géniale. Donc, comme quoi, il faut toujours laisser sa chance au produit.
Ouais.
Parce que voilà, les gens disaient, ouais, vous allez à Roanne, ça va, pas trop dur la vie. En fait, non.
En fait, non.
Et aujourd'hui, je pense que si on disait à nos enfants, on repart vivre à Roanne, ils sauteraient de joie.
Ouais.
Donc, voilà, comme quoi, il faut toujours être ouvert.
Ouais.
Et vraiment, c'était un bon atterrissage pour Shanghai. Donc,
tu parles beaucoup de ce qui fait que la vie est bien et agréable, c'est les rencontres, en fait.
C'est sûr.
C'est souvent le côté humain qui prend le dessus sur l'environnement.
Oui, Ouais, je pense que tu peux vivre dans un endroit très moche, mais si t'as plein d'amis, une vie riche de rencontres, en fait, ça change. Ton quotidien, il est top. Alors que tu peux avoir une très très belle maison, mais si t'es toute seule dans ta maison, et ben en fait. Ouais. Donc c'est vrai que moi, je suis très. Enfin, c'est pas pour rien que je fais des ressources humaines, je pense. Hein. Mais j'aime bien rencontrer des gens, avoir des amis, découvrir de nouvelles personnes, partager. Ouais, je pense que c'est mon moteur.
Trop bien. J'aime beaucoup cette vision, hein, j'aime bien. Et vous restez combien de temps en France, là ?
Donc, on est resté 2 ans à Rouen.
Ouais.
Au bout de 2 ans, on est rentré en région parisienne, parce que mon mari a changé de travail. Et donc, moi, j'ai eu la chance de retravailler dans l'entreprise dans laquelle je suis actuellement. On a passé 2 ans, ouais, je pense 2 ans ou 2 ans et demi, de belles années. On a acheté une maison, on s'est installé, etc. Et puis là, l'entreprise de mon mari leur proposait de partir en Inde, à Mumbai. Donc là, c'était un choix qui était moins évident, parce qu'on était installés, justement, et moi, j'avais mon travail. Jusque-là, j'avais quand même une carrière un peu décousue. J'avais pas travaillé pendant 5 ans en Chine. Enfin, voilà, donc là, je me disais, ça y est, j'ai remis le pied à l'étrier, ça se passait bien et tout. Et puis, l'appel du grand large a été assez fort. On se disait aussi que c'était le dernier moment, de partir tous les 7.
Okay.
Parce que nos enfants étaient grands, nos aînés étaient en 4e, en 3e. Si on voulait partir tous ensemble, c'était maintenant. Après, tu pars pas avec des enfants en terminale. Et puis moi, partir avec des enfants que tu laisses, en fait, parce qu'ils sont en études supérieures, j'étais pas programmée pour ça. Donc on s'est dit, c'est notre dernière fenêtre de tir, en fait, pour partir à l'étranger. Et puis c'est vrai que l'Inde m'attirait pas mal. Mon mari connaissait beaucoup, parce qu'il avait beaucoup travaillé dans son entreprise précédente. Et puis là, depuis au moment de partir, ça faisait quasiment 2 ans qu'il y passait la moitié de son temps. Donc, c'est un pays qu'il aimait, qu'il appréciait. Donc, on a fait le grand saut encore. Et on est parti en décembre 2019.
Ouais.
Donc, timing pas dingue. Parce que 2 mois après, 2 mois et demi après, il y a un petit virus qui est apparu sur toute la planète, et, y compris en Inde. Ouais. Donc, voilà, l'expatriation n'a pas été celle dont on rêvait, parce qu'on a été beaucoup confinés. Les enfants ont eu beaucoup, beaucoup, beaucoup d'écoles en ligne, donc ça a été dur. Et l'école a fait un boulot formidable, et ils ont toujours gardé le fil avec les enfants et des cours en ligne. Mais le fait est que c'était quand même dur à suivre. On n'a pas fait beaucoup de rencontres, justement. Enfin, au bout de 2 mois et demi, on a été confinés, donc j'avais quelques amis, mais c'est pas pareil. C'était pas pareil. Donc ça n'a pas été l'expatriation dont on rêvait. Ça a quand même été un chouette moment, parce qu'on s'est beaucoup retrouvés tous les 7. Et on était bien installés, donc on a fait beaucoup de jeux de société, on a transformé l'appartement avec des caplas, des parcours de caplas avec des billes et tout. Donc on a fait des chouettes choses, on a revu plein de films avec les enfants. Quand tu sors pas le samedi soir et le vendredi soir, t'as le temps de faire des choses.
Ouais. Oui, c'est ça. Donc, c'est plus de moments entre vous, du
c'était
coup.
C'était plus des moments entre nous, oui. Et donc, dès qu'on a pu bouger, dès que le pays s'ouvrait un peu, on a voyagé, on a quand même eu la chance d'aller au Rajasthan, on a visité Pondichéry, on allait skier l'an dernier dans le Cachemire, alors que les Français ne pouvaient pas skier l'an dernier. Donc, on a quand même eu une chouette vie pendant 18 mois. C'était pas celle qu'on espérait, mais je trouve qu'on en a fait un chouette truc. On a finalement décidé de rentrer. Moi, j'ai fait le choix de rentrer avec les enfants un peu plus tôt, parce que l'école était devenue trop petite et il y en avait un notamment qui était en souffrance.
Okay.
Je lui ai dit voilà, on rentre, et ouais. Mon mari est rentré 6 mois après nous.
Ok. Est-ce qu'au moment de partir en Inde, c'est une décision qui se prend aussi avec les enfants, ou elle se prend entre vous et les enfants, vous savez leur expliquer pour qu'ils vous suivent ?
Alors c'est une décision qu'on a prise entre nous. On a cru qu'on allait savoir leur expliquer. Bon, je pense qu'on n'a pas bien réussi, parce qu'ils ont tous pleuré, les 5. Le soir où on leur a annoncé qu'on partait en Inde, ils ont tous pleuré.
Ah bah mince.
Voilà. Donc heureusement, on avait des amis qui venaient dîner le soir à la maison. Donc j'ai dit à mes amis, il faut que vos enfants soient enfants, parce qu'il faut remonter le moral des troupes. Et donc, voilà, finalement, non, je crois qu'ils ont été contents finalement de partir. Mais c'est vrai que ça a été... voilà, ils étaient installés, ils avaient leurs amis... Et comme ils n'ont pas eu le temps de retrouver beaucoup d'amis là-bas, ça a pu être un peu compliqué pour eux. Mais je pense qu'ils ne regrettent pas aujourd'hui. Sur leur CV, ils ont une expatriation en Inde. Et, voilà, et je pense que c'est une chouette expérience pour des enfants et des ados.
Encore une fois, du coup, ils sont en scolarité française là-bas ?
Ils sont en scolarité française, oui.
Toujours tout organisé par l'entreprise de ton mari
Alors, c'était une école française hors réseau d'entreprise, mais oui, effectivement, c'est l'école qui a tout organisé, enfin, l'entreprise, pardon, qui a organisé l'école, le déménagement, etc. Toujours très facile.
Est-ce qu'il y a des conditions particulières quand vous partez, du style, vous demandez, c'est vous qui demandez à, pour les enfants les écoles, c'est vous qui demandez les logements, ou est-ce que c'est d'office, quand on est expatrié, on nous fournit tout ça?
Alors ça dépend des entreprises. Il y a des entreprises qui ont un peu des packages en fonction du nombre d'enfants. Donc nous, comme on avait 5 enfants, on avait droit à tel budget pour l'appartement. De fait, ils payent les 5 scolarités. Je pense qu'il y a d'autres entreprises qui fonctionnent différemment. Il y a des entreprises qui donnent un énorme montant, puis les gens se débrouillent.
Okay.
Nous, en Inde, on est arrivé avec tous nos meubles. On a fait le choix, en fait, de venir avec tous nos meubles. Donc, on était chez nous. Mm. Et je crois qu'on a bien fait, parce qu'en 2 mois et demi, je n'aurais jamais eu le temps de meubler un appartement aussi grand. Donc, on aurait commencé la crise Covid, le premier confinement, un peu en camping. Donc, au moins, on était chez nous. C'est anecdotique, hein, mais... T'as tes canapés, t'as tes petites bougies, t'as ta déco, t'as des cotines, voilà. Enfin, donc on était chez nous.
C'est important pour garder ses marques.
Je pense que c'est important, moi. Ouais. Je pense que c'est important, notamment pour les enfants.
Ouais. Parce que la plus grande, du coup.
La plus grande, donc ils avaient leurs bouquins, leurs maquettes, leurs jeux de société, leur cadre dans leur chambre. Enfin, voilà, ils étaient quand même chez eux.
Ok, trop bien. Et toi, comment tu retrouves du travail, du coup, quand tu arrives sur place? Tu retrouves pendant les 2 mois et demi avant...
Je retrouve le premier jour. On est arrivé pendant les vacances. Jour de la rentrée scolaire, je vais à l'école avec les enfants. Et la directrice me dit, je sais que vous avez fait telle école. Je bénis le ciel d'avoir fait cette école-là, parce qu'elle m'a toujours ouvert des portes. Et elle m'a dit, voilà, j'ai un jeune qui rentre, qui revient de France. Il était chez nous, il était en Inde l'année d'avant. Il est rentré pour faire son premier trimestre de première en France, mais ça s'est très mal passé. Donc ses parents lui ont dit de revenir. Et donc il cherchait un prof d'éco pour ce garçon qui était en filière technologique.
Ok.
Et donc je me suis dit, banco, ça va m'occuper 6-7 heures par semaine avec lui, plus la préparation des cours. Voilà, le niveau d'éco au lycée n'est pas dingue, donc il n'y avait aucun problème pour que je le fasse. Ça faisait un lien avec mon boulot d'avant, où je faisais de la formation et de la pédagogie. Donc le côté pédagogique, je l'avais, comment trouver le bon moyen pour que l'élève comprend ce que tu es en train de lui expliquer, c'est quelque chose que j'aimais bien. Donc voilà, et vraiment, j'ai jamais regretté, parce que quand on a été confinés, on était tous à la maison, très très confinés, c'est-à-dire qu'on n'est pas sortis dans la rue pendant les quatre mois du premier confinement. À un moment, je disais aux enfants, moi j'ai mes cours, maintenant vous débrouillez. Quoi. Parce que sinon, c'était guichet ouvert en permanence. Hein. Donc là, je travaille, je suis avec mon élève, voilà, vous me laissez, j'avais qu'un élève. Hein. Et la deuxième année, on m'a proposé de prendre tous les cours d'éco, donc j'avais des secondes et des premières. Et un premier, j'avais qu'un élève en première.
Ok, ah oui, donc ça, là, la deuxième année, ça te faisait un travail...
Ça me faisait un peu plus de cours.
Ok.
J'étais pas à temps plein, mais ça... Voilà, ça te rythme quand même la semaine.
Oui. Bon, il y a quand même les enfants toujours à s'occuper à côté. J'imagine que la vie est bien remplie.
La vie était bien remplie. mais voilà, c'était important pour moi d'avoir cette activité à ce moment-là.
Oui. Et donc, on a parlé des différences culturelles avec la Chine. Et là, avec l'Inde, c'est quoi les grosses différences entre chez nous et les différences aussi avec la Chine un peu?
Alors, pour moi, la différence essentielle entre Chine et Inde... La Chine est un pays fabuleux. Je pense qu'on n'a pas trop de points communs avec les Chinois.
Ouais.
Voilà. Avec les Indiens, je pense qu'on a des points communs. C'est des gens très joyeux, très attachants. Et je pense vraiment qu'on a j'avais des liens avec les gens. Notamment, il y a beaucoup de petits magasins pour faire ses photocopies, parce que c'est un pays qui aime beaucoup la bureaucratie. Les gens sont toujours en train de faire des copies de formulaires, de je sais pas quoi. Donc, partout dans Bombay, tu as des petites boutiques qui s'appellent Xerox, et tu vas faire tes impressions ou tes photocopies. Et donc, moi, ça m'arrivait comme assez régulièrement d'aller imprimer des patrons de couture ou les cours pour mes enfants, les cours pour mes élèves. Voilà. Et donc, j'ai eu un lien, en fait, avec le monsieur du magasin Xerox. Je lui ai envoyé un mail, je lui ai dit, est-ce que tu peux m'imprimer ça, telle couleur? J'arrivais, il me reconnaissait, et c'était sympa, en fait. Et je pense qu'en Chine, j'aurais pas eu ça.
Ouais.
Voilà, et en Inde, ça se fait très facilement. Ce qui est difficile en Inde, c'est la pauvreté. Ça, c'est sûr que elle est très présente et puis elle a été quand même beaucoup, elle s'est beaucoup accrue pendant la crise Covid. On a vraiment vu après le premier confinement, on a vu des gens qui manifestement s'étaient fait virer leur appartement, ils avaient leur meubles dans la rue. On avait le canapé, la commode posé sur un trottoir et les gens s'étaient installés là. Donc c'est difficile. C'est difficile, c'est surtout difficile en fait. Très tôt le matin et vers 10-11 heures le soir. Et là, tu vois les gens qui s'installent pour dormir et le matin, tu les vois qui se réveillent. Okay. Tu vois des familles entières qui se réveillent, des petits-enfants qui, comme n'importe quel enfant, sautent sur leur père pour qu'ils se réveillent, sauf que c'est dans la rue, quoi.
Okay.
Donc c'est à cette heure-là que tu vois vraiment la pauvreté. Dans la journée, c'est quand même des villes, notamment Bombay, tu as du monde partout, tout le temps. Sur les trottoirs, tu as du monde tout le temps. Donc tu fais pas trop la différence entre les gens qui vivent là et les gens qui sont là en train de déjeuner ou les gens qui passent, qui travaillent. Mais le soir, voilà, à ces heures-là, c'est plus difficile. Donc ça, c'est un côté de l'Inde qui est assez difficile et je peux comprendre que les gens aient du mal à supporter. En revanche, les gens sont très très joyeux et très beaux. Moi, j'ai trouvé que c'était un très beau peuple. Et quand je suis arrivée en Inde, le premier jour, on a traversé Bombay pour aller de l'aéroport à l'hôtel. Et là, tu te retrouves dans une ville qui n'est pas terminée, en fait. Il y a la moitié des immeubles qui ne sont pas terminés ou pas rénovés. Les routes sont n'importe comment. Enfin, voilà, le goudron, c'est n'importe quoi. Tu as des nids de poules partout. C'est pas une jolie ville, quoi. Vraiment. Et c'est poussiéreux. Voilà, c'est le bazar partout. Il y a du bazar, quoi. Les tuk-tuk, les vélos, les gens à pied, les voitures et tout. Et donc, les trois premiers jours, j'avoue, je me suis dit, je n'y arriverai pas.
Ouais.
Je n'y arriverai pas. C'est pas possible. Et en fait, mon mari me disait que que pendant la nuit, je dormais, j'y arriverai pas. Donc vraiment, la nuit, je décharge ma charge mentale. Et en fait, au bout de trois jours, je me suis dit, effectivement, soit tu n'y arrives pas, soit tu trouves une solution. Et la solution, je l'ai trouvée dans les gens. Les gens sont joyeux, je l'ai dit déjà, et très élégants. Élégants dans le sens, les femmes, il y a des femmes en sari hein, dans la rue, donc très colorées. Franchement, c'est beau. Les hommes, ils ont souvent une chemise bien repassée. Donc, tu vois des gens qui sortent de leur bidonville, chemise nickel. Ils sont élégants, ils sont classe parce que leur religion, la religion hindoue, promeut justement la beauté du corps.
Ok.
Ça fait partie, en fait, le corps et le temple pour Dieu. Donc, il faut en prendre soin. Et donc, même si tu es très pauvre, tu vois des gens qui se lavent les cheveux dans la rue, des gens qui se lavent les dents dans la rue. Enfin, voilà. Et en fait, du coup, c'est vrai que même des gens très pauvres sont élégants et classe. Vraiment, c'est le mot. Je dis, ouais, ils sont, c'est un peuple qui est très beau. Voilà. Et du coup, je me suis dit, je vais regarder les gens plutôt que leurs immeubles complètement, complètement défoncés. Et c'est vrai que quand tu es en voiture, tu vois les gens rient, les gens sont extrêmement joyeux, c'est coloré. C'est l'image que je retiendrai de l'Inde. Des ouvriers du bâtiment qui sont en train de faire des travaux de façon pas du tout
sécurisée.
Voilà, bon, ça fait un petit peu peur, mais qui rit aux éclats. Voilà, ils sont ensemble, voilà, c'est très agréable pour ça, ce pays là c'est vraiment ce que je retiendrai toute ma vie, je pense.
Ça te manque ici, cette joie de vivre un peu dans la rue et tout, maintenant que t'es rentrée?
Oui, je pense que ça manque. C'est vrai que c'est moins coloré ici.
En plus, on sort de l'hiver, tout le monde est habillé en gris et noir.
Voilà, et ouais. Moi la première hein, aujourd'hui. Hein.
Mais t'as vu,
t'es en rose. Voilà, tu vois, les saris peuvent avoir cette couleur, cette couleur fuchsia. Donc voilà, c'est ça qu'il faut. C'est le conseil que je donnerais aux gens qui vont en Inde. Voilà, il y a peut-être deux niveaux de vision et faut pas se tromper parce que sinon on passe à côté.
Ouais. Ouais, mais en fait, c'est tout ton parcours, toute ta vie, c'est une question de rencontre, d'humain, je trouve ça fou, enfin, je trouve ça beau que tu arrives à te dire l'environnement ne me plaît pas, mais du coup, je vais me raccrocher à l'humanité des gens, en fait.
Là, j'avais pas le choix, en fait.
Ouais.
En fait, quand t'as tout déménagé, que t'es là avec tes cinq enfants, t'as lâché ton boulot, il y a un moment où il faut que ça marche, hein.
Ouais.
Enfin, vraiment, fallait que ça marche, Et mon mari, il y arrivait.
Ouais.
Et il me disait toujours, j'adore bosser avec les Indiens, ils sont tellement sympas et tout. Bon. Et ouais, effectivement, ils sont... Je ne sais pas si j'adorerais bosser avec eux parce qu'ils ont une notion du temps qui n'est pas la même que la mienne. Mais c'est vrai qu'ils sont joyeux et qu'il faut... Voilà, que c'est un peuple vraiment très attachant.
Et les enfants, comment ils s'habituent? Comment ils se font des amis aussi dans cet environnement maintenant qu'ils sont plus grands?
Je pense que ça a été difficile pour les enfants. Même je le sais, ça a été difficile. Marcher dans la rue, c'est compliqué en Inde. Parce que t'as pas vraiment de trottoir, t'as du monde partout. Donc, pour eux, ça a été difficile. Je le sais, hein, vraiment. Je pense qu'ils ont gardé des souvenirs de nos voyages. Ils ont gardé un souvenir du Rajasthan, de Pondichéry, quand on allait skier, effectivement. Et c'est aussi pour cette raison-là que je suis partie avec eux, parce que je me suis dit, c'est pas la vie que je veux leur offrir. C'est sûr que la vie quotidienne n'était pas très drôle pour eux, mais on faisait des chouettes voyages. Et pour moi, ouais. Ça, c'est pas la vie.
Ouais.
C'est pas, ça, c'est une vie d'expat complètement déracinée. Voilà, oui, on fait des super voyages, mais bon, le quotidien n'est pas dingue. Et moi, je voulais pas qu'ils aient cette vie-là. Je voulais qu'ils aient une vie normale, avec un quotidien sympa. Et puis, de temps en temps, il y a des voyages. Mais c'est pas... on attend les voyages à tout prix pour sortir de notre quotidien difficile.
Ouais.
Donc, je pense qu'eux sont passés à côté.
Ok.
Ils sont passés à côté parce qu'ils étaient encore trop jeunes. Et que, là encore, quand t'as des enfants, j'ai certains qui sont blonds, cheveux clairs, les yeux clairs, ils sont beaucoup regardés.
Ouais.
Et il y a des âges où t'as pas envie qu'on te regarde.
Oui. Oui, l'adolescence, c'est pas...
T'as pas envie.
Ouais. Ouais, ouais. Est-ce que vous vivez un peu ce sentiment d'être exclu dans le sens où de ne pas être à sa place parce que physiquement on n'est pas pareil que tous les gens autour de nous. Est-ce que c'est un sentiment qu'on vit quand on est expatrié ou alors on passe au-dessus ou là-bas ils nous le font pas ressentir ou...
Alors en Inde, le regard des hommes est difficile. Enfin, les hommes regardent les femmes de façon assez appuyée, donc okay. Il faut s'habituer. Il faut s'habituer. Après, moi je fais attention, c'est un pays où tu n'as pas les épaules nues, mais tu peux avoir un croc top.
Okay.
Les femmes en sari, on voit généralement leur ventre. Alors moi, je suis pas passée au croc top, mais j'ai gardé les épaules, gardé les épaules couvertes. Je mettais pas de jupe courte. J'avais plutôt des jupes longues.
Okay.
C'est un pays où on te regarde. Effectivement, les gens te dévisagent, mais c'est jamais méchant. À Mumbai, franchement, on n'a jamais senti d'hostilité. Hein. Plutôt, ils sont curieux, quoi, savoir. De savoir qui tu es.
Okay.
Ou ils te regardent juste comme ça, ils te prennent en photo.
Tu as parlé du Covid, du fait que vous étiez beaucoup confinés. Et en fait, j'ai fait un petit peu des recherches sur toi. Je t'avoue, je n'ai pas trouvé grand-chose. Mais il y a une phrase de toi dans un article de journal. Alors, si je retrouve ce que tu as dit exactement, dans le petit journal, sur lepetitjournal.com, tu as dit... l'épidémie semble hors de contrôle. Est-ce que tu te souviens un peu de ce moment que tu aurais eu avec ce journal? Et comment est-ce que tu as ressenti du coup la gestion du Covid en Inde? Et est-ce que tu as eu peur pour toi, ta famille?
Alors le premier confinement qui a eu lieu en même temps qu'en France, je pense que l'Inde a été très prudente. Donc il n'y avait pas encore énormément de cas. Ils ont pris conseil auprès de la Chine, qui a eu la gestion qu'on connaît. Donc, ils ont fermé très vite et ça a été très, très confiné. Donc, sur le premier confinement, il n'y a pas eu beaucoup de cas. Ils ont réouvert très progressivement à partir de septembre. Voilà, il y avait des grands centres d'accueil de gens malades. Il y avait un système de quarantaine. Quand on est rentré, on a été 15 jours en quarantaine. Donc, ça semblait assez, assez contrôlé. Ensuite, le problème a été lorsque les transports en commun ont réouvert. Là, c'est un pays de 1 milliard 2 ou 1 milliard 3 personnes. Avec des mégalopoles pas possibles, c'est sûr que les gens se côtoient. Et en plus, avec des habitats qui ne sont pas énormes, donc les gens, ils sont quand même beaucoup dans la rue. Et donc, la deuxième année, donc 2021, il y a eu une nouvelle vague. Donc, c'était la vague Delta, à partir de mars à avril, je dirais peut-être avril. Et, donc, et là, ça a été l'horreur. Ça a été vraiment... il y a eu une vague énorme de malades. Et donc, en fait, dans un pays où il n'y a pas suffisamment d'hôpitaux et pas suffisamment de lits, c'est vite une catastrophe. Mmh. Donc, à Mumbai, il semblerait qu'on était un peu préservés. À Delhi, ça a été vraiment l'horreur. Il y a vraiment eu beaucoup, beaucoup de morts. Le fait est qu'à Mumbai, il y a quand même la communauté française qui a été touchée. Il y a une jeune femme qui est décédée du Covid. Donc, quand t'as quelqu'un de la même communauté que toi qui meurt de cette maladie en Inde, ouais, c'est vrai que tu commences à avoir un peu peur.
Ouais.
On a été encore confinés à ce moment-là, très confinés. Oui, on se disait qu'est-ce qui se passe si on attrape le Covid, hein ? À ce moment-là, on n'était pas encore vaccinés.
Ouais.
On a été vaccinés au mois de mai. Le consulat a organisé une vague de une campagne de vaccination pour les expatriés. Enfin, pour les Français, pas les expatriés, mais les Français, pardon. Ouais. Et donc voilà, ça a un peu relâché la pression. Mais oui, effectivement, ça a été ce moment-là a été dur. On était loin de nos familles.
Ouais.
Moi, je sentais que j'avais pas le mal du pays, mais je sentais que mes parents étaient quand même assez inquiets.
Mmh.
Assez inquiets pour nous. On avait à ce moment-là déjà décidé qu'on rentrait, mais il fallait quand même qu'on termine l'année scolaire.
Okay.
Donc bon, c'était pas la meilleure période à ce moment-là.
Ouais. Fallait terminer l'année scolaire, mais en même temps, elle s'est terminée à la maison, du coup, en confinement.
Oui, ça s'est terminé, oui, effectivement. Mais plus tôt on partait, plus on était séparés de mon mari et du papa, quoi. Donc j'ai attendu le mois de juin. Je suis quand même rentrée un peu plus tôt que la fin de l'année.
Okay.
Je suis partie début juin. Mon fils a passé le brevet en France.
Okay.
Alors qu'il devait le passer à Mumbai. Je me suis organisée comme ça. Parce que voilà, c'était trop.
Ouais.
Effectivement, c'était vraiment hors de contrôle. Et je ne sais pas si tu te souviens, mais dans les médias en France, on parlait quand même beaucoup, beaucoup de l'Inde. Et,
moi, je ne regarde pas les médias.
Tu ne regardes pas les médias, ouais. Peut-être. C'est pour ça que tu es souriante.
C'est ça. Je me préserve, je ne regarde jamais les infos. Vraiment, je pense que même avant le Covid, en fait, on ne regardait pas les infos. Et je pense que vraiment, depuis le Covid, je n'ai jamais allumé la télé à 20h chez moi. Enfin, c'est pas... Je trouve que c'est trop.
C'est trop.
Mais oui, enfin, du coup, voilà, je me préserve comme ça. Donc, effectivement, j'ai pas forcément. J'ai entendu parler de l'Inde. Je me rendais pas compte que c'était autant. Hein. Mais du coup, vous rentrez. Et toi, tu rentres aussi. Enfin, avant de rentrer, tu cherches un travail et tu te dis tu vas travailler ou tu rentres et tu vois ce qui se passe.
J'avais déjà commencé à prendre des contacts. Dans mon ancienne entreprise, hein, celle dans laquelle je suis aujourd'hui, j'ai repris des contacts, je rentre, est-ce qu'il y a des choses pour moi, etc. Puis ça s'est concrétisé à la fin de l'été.
Ok, rapidement.
Donc assez rapidement, et j'ai recommencé début septembre, donc c'était parfait. Les enfants ont réintégré leurs écoles. On n'a pas récupéré notre maison tout de suite, qui était en location.
Okay.
On s'est d'abord installé dans une première maison, et puis au mois de novembre, nos locataires ont donné leur préavis. Donc on a redéménagé fin novembre, mais finalement tout s'est bien aligné. Donc ça a été un retour assez facile et mon mari est rentré définitivement fin janvier.
Ok. Donc. Ouais, ça fait quand même plusieurs mois, mais les enfants sont habitués à ce qu'ils partent souvent en fait.
Oui, donc ça n'a pas été évident tout le temps, mais effectivement ils avaient quand même un peu l'habitude, donc ils rentraient toutes les 3 semaines, 1 semaine.
Ok. Quand vous êtes parti du coup en Inde, vous aviez acheté la maison et tu disais vous l'aviez mise en location.
Oui.
C'est vous qui gériez depuis l'Inde les locataires, etc. Ou vous aviez pris quelqu'un est-ce que vous aviez pensé à la vendre aussi pourquoi cette décision? Comment?
Alors, on n'avait pas la maison depuis très longtemps. Quand on est parti, on avait la maison depuis moins d'un an et demi. On venait de terminer les travaux, donc on n'allait pas la vendre tout de suite. On voulait en profiter un petit peu.
Ouais.
Donc on l'a mise en location et on avait une agence qui gérait.
Ok. Ça permet de savoir que quand on rentre, on peut quand même avoir un toit.
Alors, comme on est rentré plus tôt, le bail n'était pas terminé, donc c'était pas sûr qu'on la récupère si vite. Bon, finalement, on a eu de la chance, les planètes se sont bien alignées et on a récupéré. Et c'était sympa de retrouver notre maison.
Ouais.
La période de transition où on a été dans une autre maison n'a pas été évidente.
Mm.
Moi, j'ai eu du mal à trouver mes marques. La maison était un peu sombre, je captais pas bien le wifi et mon opérateur téléphonique passait pas, donc c'était pas très drôle. Mais voilà, c'était une bonne maison de transition qui a fait le job. Ça a duré que 3 mois, donc c'était parfait.
Mm.
On est retourné dans notre maison et puis là, peut-être qu'on y est pour 10, 15, 20 ans, je ne sais pas.
Il n'y a pas d'autre expatriation de prévue là.
Là, j'ai pas envie, moi.
Ouais. C'est marrant parce que vous partez en Chine, vous partez en Inde, vous trouvez des maisons, vous adaptez rapidement et vous rentrez en France et une maison, l'adaptation se fait mal. Donc en fait, ça dépend pas du tout de l'endroit où on vit, comment on s'adapte à notre environnement. C'est marrant, je trouve. On pourrait se dire, voilà, maintenant qu'ils sont rentrés en France, ils ont leurs marques, ils ont leurs habitudes d'avant, ils ont leur train de vie, etc. Alors qu'en fait, pas forcément.
Non, je pense que on ne s'est pas fait à cette maison de transition.
Ouais.
On ne savait pas combien de temps ça allait durer. Ça pouvait durer, jusqu'à 18 mois, puisque le bail durait encore 18 mois. J'avais dit à mon mari, le pire qu'ils peuvent faire, c'est nous dire au mois de novembre qu'ils donnent leur préavis parce qu'on se sera vraiment installé, ouais, et il faudra tout recommencer. Donc c'est exactement ce qui s'est passé. S'il m'avait dit dans l'été on part fin octobre, j'aurais pris un Airbnb sans m'installer vraiment. Mais là on s'est vraiment installé, t'installes tous tes cadres, tout. Parce que j'ai beaucoup investi pour que les enfants soient bien. En parallèle j'ai recommencé mon job ici, dans mon entreprise. Mon mari n'était pas là. Ça fait un premier trimestre très très chargé.
Ouais.
Et voilà, c'est vrai que j'ai eu du mal dans cette maison. Ouais. J'ai toujours allé sombre, elle est pas bien placée, il y avait rien qui allait, quoi. Alors que c'était une jolie maison, pleine d'histoire, c'était une maison qui a été habitée par Camille Pissarro, le peintre. Donc c'était une belle maison ancienne, enfin vraiment, voilà, mais voilà, la rencontre s'est pas faite avec cette maison.
Ouais. J'ai une autre question sur l'expatriation. Est-ce que quand on part dans un pays, quel que soit le pays, on se renseigne sur... l'environnement politique, économique, aussi du pays?
Alors, moi, je me renseigne à titre personnel parce que j'aime bien. En Chine, on a vite été conditionné parce que quand on a reçu la liste de ce qu'on pouvait emporter ou pas, on te dit tu peux prendre que 100 livres. Je pense que c'est politique.
Il y a une raison à ça.
Il y a une raison, voilà. Donc, alors, ceci dit, quand on a vécu en Chine, la vie était assez libre. Je sais qu'aujourd'hui, on a encore des amis qui sont là-bas. La dictature est plus présente.
Okay.
Nous, on était très libres. L'Inde, je m'étais renseignée. Moi, je lis pas mal de bouquins, de romans et tout. Donc, quand je suis arrivée en Inde, je lisais beaucoup d'histoires sur l'Inde, sur Indira Gandhi, sur sa famille, sur le Mahatma, bien sûr. Voilà, essayer de comprendre un peu ce qui se passe. Après, l'Inde, c'est quand même un pays très, très difficile, entre le système de caste. C'est quand même un pays avec des grosses régions. C'est presque un pays fédéral, en fait. Donc, tu as des grosses régions, des énormes villes. Il faut se dire que le maire de Mumbai, il gère une population qui fait un tiers celle de la France. Parce que c'est 20 millions d'habitants à Mumbai. Il gère une population qui est plus grande que la Belgique. Donc,
oui.
Voilà. Et d'ailleurs, c'est une femme. Donc, c'était une femme à ce moment-là. Donc, c'est quand même c'est important de... Je suis d'accord, c'est important de s'intéresser à l'histoire. Surtout que, pour le coup, c'est deux pays qui ont une histoire très, très riche. Ouais. Et puis, d'essayer de comprendre. Après, notamment Chine. Et puis, moi, je pense qu'aujourd'hui, l'Inde n'est pas la grande démocratie qu'elle a pu être. C'est parfois difficile de trouver des informations, de savoir qui pense quoi.
OK. Ça impacte la... Votre du coup en Chine, tu disais que vous étiez libre et aujourd'hui ça l'est moins. Mais du coup, ça fait partie quand même de. Est-ce qu'aujourd'hui vous auriez pu retourner en Chine en sachant que les libertés sont moins importantes ou est-ce que quand même ça fait partie des éléments qui rentrent en compte dans le choix de l'expatriation?
Je sais pas si aujourd'hui on prendrait la même décision pour la Chine. Tu vois, on s'est jamais reposé la question.
Ouais.
On s'est jamais reposé la question. Donc je sais pas. Effectivement, tu pourrais dire. Mes convictions personnelles m'empêchent d'aller prosaïquement dépenser de l'argent dans un pays avec lequel je ne suis pas du tout d'accord. Voilà, je ne sais pas si on prendrait la même décision aujourd'hui. Je ne me suis même pas posé la question.
Trop bien, je vais arrêter de te poser des questions.
Non, mais c'est bien,
te
pose ça, pas. Ce soir je vais en parler à la maison. À votre avis, est-ce qu'on repartirait en Chine aujourd'hui pour ou contre?
C'est ça. J'ai ma dernière question du podcast, c'est quoi? Est-ce que tu as une citation, une phrase, un mantra, quelque chose qui régit un peu ta façon de voir la vie, quelque chose comme ça? Question difficile.
En fait, j'en ai une en tête, mais j'arrive plus à la reformuler. Choisis un travail que tu aimes, et comme ça, tu auras l'impression de ne plus jamais travailler de ta vie.
C'est beau. Aujourd'hui, ton travail, tu l'aimes?
Aujourd'hui, je l'aime, mon travail, ouais. Ouais, j'aime bien mon environnement, j'aime beaucoup l'entreprise à laquelle je suis, parce que c'est une entreprise qui fait du BTP, et donc qui marque son temps, qui marque son époque, et pour moi, c'est important de travailler dans une entreprise qui a du sens. Et oui, j'aime mon travail, j'aime mes collègues, j'aime l'environnement dans lequel je travaille.
Trop bien. Merci beaucoup,
Bénédicte. Merci à toi de m'avoir fait signe. Bonne chance pour tout.
Merci. Salut. Merci d'avoir écouté l'épisode jusqu'ici. S'il vous reste quelques secondes, j'ai encore 2-3 trucs à vous dire. Déjà, si vous aimez le podcast et que vous voulez avoir une notification à chaque sortie d'épisode, vous pouvez vous abonner sur votre plateforme d'écoute préférée. Ensuite, vous pouvez aussi mettre une bonne note et un gentil commentaire pour que les gens qui découvrent le podcast aient envie de l'écouter. Et puis, le meilleur moyen pour m'aider à le faire connaître, c'est encore d'en parler autour de vous, de partager les épisodes, de raconter ce que vous aimez avec ce podcast. Je vous remercie infiniment pour ça. Après, si vous voulez papoter avec moi, on se retrouve sur Instagram sous le pseudo @itinéraire.dunepassionnée. Si vous voulez me partager votre changement de vie et intervenir sur le podcast, vous pouvez m'écrire par mail à manon@podcast-oledepart.com. Et si vous voulez retrouver toutes les informations du podcast, ça se passe sur le site www.podcast-oledepart.com. On se retrouve le mois prochain pour un nouvel épisode. Et en attendant, prenez soin de vous.